cette lecture
de Genèse chapitre 24. Et je reprends au verset 28. Genèse 24, 28. La jeune fille courut raconter tout cela chez sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Laban courut. Il y a beaucoup de courses ici. C'est un moment excitant, véritablement. Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Il avait entendu les paroles de sa sœur Rebecca qui disait « Ainsi m'a parlé cet homme ». Il vint donc vers l'homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Il lui dit « Viens toi qui es béni de l'Éternel, pourquoi restes-tu dehors? J'ai déblayé la maison et une place pour les chameaux ». L'homme, donc le serviteur d'Abraham, entra dans la maison. Laban fit décharger les chameaux et donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds à l'homme et aux gens qui l'accompagnaient. Puis on plaça devant lui de quoi manger. Mais il dit, « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Parle, » dit Laban. Alors il dit, « Je suis le serviteur d'Abraham. L'Éternel a grandement béni mon Seigneur, qui est devenu un homme important. Il lui a donné du petit et du gros bétail, de l'argent et de l'or, et des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a dans la vieillesse enfanté un fils à mon Seigneur. C'est à ce fils qu'il a donné tout ce qui lui appartient. Mon Seigneur m'a fait prêter serment en me disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananiens dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras dans ma famille et dans mon clan pour prendre une femme pour mon fils. » J'ai dit à mon Seigneur, « Peut-être la femme ne me suivra-t-elle pas ?» Il m'a répondu, « L'Éternel devant qui j'ai marché, on verra son ange avec toi et il fera réussir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme de mon clan et de ma famille. Tu seras dégagé du serment que je t'impose quand tu auras été dans mon clan. Si jamais on ne t'accorde pas la jeune fille, tu seras dégagé du serment que je t'impose. » Je suis arrivé, donc le serviteur raconte, je suis arrivé aujourd'hui à la source. Et j'ai dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, me voici placé près de la source d'eau, que la jeune fille qui sortira pour puiser et à qui je dirai, donne-moi à boire, je te prie un peu de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'aie fini de parler en mon cœur, il décrit sa prière. Avant de finir cette prière, que je n'ai pas prononcée à haute voix, en mon cœur, voilà Rebecca qui sort sa cruche sur l'épaule, elle descend à la source et puise. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'incliner la cruche qu'elle portait et elle a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, puis elle a donné aussi à boire aux chameaux. Je lui ai demandé, de qui es-tu la fille? Elle a répondu, je suis la fille de Bethuel, la petite fille de Nahor et de Milka. Donc, c'est le neveu, si je peux, c'est le fils du neveu d'Abraham. Donc, ça, de toute façon, on est dans le clan d'Abraham et le serviteur s'en rend compte. J'ai mis l'anneau à son nez. Imaginez, Tu viens de la rencontrer, tu mets un anneau à son nez, voilà. Donc ne prenez pas des idées, les jeunes. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, devant la fille, il se prosterne, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a fidèlement conduit à prendre la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. De toutes les filles qui auraient pu venir dans cette ville épuisée. Maintenant, si vous voulez agir, il parle à la famille maintenant, le serviteur, si vous voulez agir avec bienveillance et fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, c'est-à-dire si vous allez lâcher la fille, dites-le-moi, et je retournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent en ces termes, cette affaire vient de l'Éternel. Nous ne pouvons rien te dire pour ou contre. Rebecca est là devant toi, prends-la et va, et qu'elle devienne la femme de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Trois versets encore. Lorsque le serviteur d'Abraham entendit leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des largesses à son frère et à sa mère. Après quoi, lui et les gens qui l'accompagnaient mangèrent et burent. Ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi repartir vers mon Seigneur. Soyez indulgents avec moi ce matin, j'avais préparé un autre sermon et ce matin, dès mon réveil, ce passage que je méditais donc dans la semaine m'est venu avec une telle envie que donc j'ai gribouillé quelques notes et je pense qu'au début de cette implantation d'église, ce passage peut être très utile pour nous. Abraham, premier point. Abraham, l'homme de la bénédiction. Quand nous lisons cet événement, nous sommes sans doute frappés par le fait que dans les yeux du serviteur, il nous donne une image très forte de son Seigneur, n'est-ce pas? Il prie au nom d'Abraham. Quand il se tourne vers Dieu, il dit, montre la bienveillance envers mon Seigneur Abraham. C'est fort, n'est-ce pas? Il ne dit pas simplement, fais réussir mon voyage, mais il dit, fais ça à cause de ton amour envers Abraham. Il raconte à la famille, l'Éternel Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, a abondamment béni et accompagné mon maître Abraham. En d'autres termes, quand nous regardons Abraham à travers les yeux du serviteur, nous voyons un homme qui vit et existe sous une bénédiction divine très fidèle et très grande. Il vit dans un monde d'amour divin, Abraham. Abraham aussi est très conscient de cela. Sa propre manière de se voir a été transformée. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir, au fil des années chrétiennes, votre manière de vous voir changée. Regardez la manière dont Abraham lui parle au verset 6. Abraham lui répondit, garde-toi d'y ramener mon fils, donc vers mon ancien peuple idolâtre, donc avant que je ne connaissais pas le Seigneur. Garde-toi de ramener mon fils là-bas. Si jamais je meurs, tu cherches une femme pour mon serviteur, ne va pas surtout là-bas. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille? C'est lui qui est venu me prendre. Qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie? Lui qui m'a parlé et qui m'a juré de donner ce pays à ma descendance. Lui-même enverra son ange devant toi. » Il est tellement confiant qu'il vit constamment sous une bénédiction divine imméritée qui dit « Vas-y, tu vas réussir parce que l'Éternel Dieu qui m'a choisi, qui m'a arraché, qui m'a parlé, qui m'a promis, qui m'a juré, qui m'a béni, il enverra son ange devant toi. » C'est comme ça que je vis ma vie. Je ne mérite rien de tout cela. Mais l'Éternel Dieu a sa main de bonté sur moi. Cette bénédiction sous laquelle Abraham vit est un peu le fil rouge qui jalonne tout son histoire, n'est-ce pas? Lorsqu'on pense à Abraham, on parle dans le Nouveau Testament de la bénédiction d'Abraham qui vient sur nous, n'est-ce pas? Et cette bénédiction, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'Abraham a cette place? Pourquoi est-ce qu'il est un homme comme ça? Et pourquoi est-ce que vous, si vous êtes croyant, vous vivez sous cette même bénédiction d'Abraham? Peut-être que vous ne le saviez pas. Eh bien, dans Genèse 15, 9, vous vous rappelez que Dieu mène Abraham dehors et il fait voir les étoiles et il dit « Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. » Et Abraham crut Dieu à ce moment-là et il fut justifié, déclaré par un verdict divin « Juste en règle avec moi, accueilli, accepté par moi, blanc comme la neige pour toujours. » C'est parce que Dieu a fait cela pour lui, cette grâce du salut, de nous prendre, de nous laver, de nous déclarer juste alors qu'en nous-mêmes nous ne sommes pas justes. C'est pour ça qu'il est en train de vivre cela. Parce que ce verdict que Dieu a fait envers vous et Abraham, c'est un verdict qui détermine votre avenir. Ce n'est pas vos œuvres, vos actes et vos péchés qui déterminent votre avenir. C'est l'acte de Jésus-Christ. Alors, ça, vous le savez probablement. Mais nous savons que dans le plan de Dieu, cette bénédiction d'un homme, Abraham, qui vit choyé par Dieu, vraiment choyé par Dieu, accompagné par Dieu et béni par la générosité de Dieu, le plan de Dieu était de répandre ça à plein de monde, n'est-ce pas? Parce que vous vous rappelez quand dans Genèse 12, Dieu a donné la promesse que par ta descendance, la bénédiction, même mot, la bénédiction va s'étendre à toutes les familles de la terre. C'est-à-dire, je vais être le même sorte de Dieu pour eux que je vais être pour toi, tu vas voir. Ils vont vivre sous une telle, enveloppés d'une telle bienveillance et fidélité à moi. Maintenant, ok. Donc, on respire. C'est un peu abstrait. On va revenir dans le passage. Je voulais juste vous dire qu'on a un petit problème avec la traduction du mot-clé du passage. Tout au long de ce passage, il y a une phrase qui revient. Nous le voyons dans la prière du serviteur. Regardez avec moi au verset 12. C'est le serviteur maintenant qui arrive au puits et il s'arrête et il prie. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je recherche et, regardez bien, et agis avec bienveillance envers mon Seigneur Abraham. Si nous allons un peu plus loin, et c'est là que je vais avoir un peu de mal, n'ayant pas bien préparé le sermon, à trouver les autres versets, mais je vais, si je trouve pas devant mes yeux, je vais juste vous dire que, dans le verset 26, donc une fois qu'il rencontre la bonne fille, alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel et dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a cessé d'exercer sa bienveillance et sa fidélité envers mon Seigneur. Et ça revient encore dans le passage. Et même quand il parle à la famille, il leur dit au verset 49, maintenant, si vous voulez agir avec bienveillance, même mot et fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Toute cette histoire, quand le serviteur met sa main sur la cuisse d'Abraham et jure que je vais aller vers ta famille pour chercher une fille pour Isaac, toute cette affaire est une affaire où une question est posée. Est-ce qu'il va voir Dieu agir avec bienveillance envers lui et envers Abraham? Mais le problème, c'est que le mot bienveillance, si je prends d'autres Bibles, alors là, c'est ta bonté, là, c'est ta fidélité, et là, je ne sais plus ce que c'est. Et là, ici, c'est ta bienveillance. C'est le mot hébreu « esed », et n'est-ce pas, c'est un mot tellement riche qu'on n'a pas un seul mot en français qui rend l'idée. Mais moi, je dirais que nous pouvons dire que le serviteur a prié, « Seigneur, montre ton amour. » Comment ? Ton amour bienveillant et fidèle, tenace, envers mon serviteur. C'est un amour qui est bienveillant, mais c'est un amour, l'autre idée de Hesed, c'est un amour qui est tenace, qui ne va jamais arrêter. Et c'est ça la bénédiction d'Abraham. C'est qu'une fois que Dieu te prend comme son enfant, que désormais, partout et en tout, vous vivez sous cette bénédiction. Dans les épreuves, dans les mauvaises choses, aussi, Dieu fait concourir à notre bien en visant fidèlement nous bénir. Maintenant, ça c'est un long premier point. J'avance au deuxième et je vais essayer de me dépêcher. Deuxième point, je vous ai parlé d'Abraham, homme sous la bénédiction, comme vous, vous l'êtes. Le deuxième point, c'est que le plan de Dieu pour bénir non seulement vous, mais tout un grand peuple élu dans ce monde, ici à Bouc-Belair et en France et ailleurs, le plan de Dieu, la bénédiction de Dieu ne peut arriver qu'en suivant le plan de Dieu. Maintenant, cette histoire, tu peux entendre des sermons, quand j'ai entendu en Afrique du Sud ce jour-là avec Nikki, des sermons sur comment est-ce qu'on sait si on doit marier à telle personne. Je vous dis, c'est pas le but de ce passage. Ce qui rejaillit est quelque chose qui a à faire avec votre salut. Vous voyez que Abraham, on lui a promis que par sa descendance, Isaac, viendrait cet état de bénédiction pour des gens de toutes les nations. Mais il faut que la descendance soit. Parce qu'il faut que Jésus-Christ vienne. Parce que c'est par lui et son œuvre que Dieu va faire venir la bénédiction. Une fois que Jésus, comme Samson, fait tomber le toit sur lui, il fait tomber le toit sur l'empire philistin et le mal et le péché, la culpabilité. Et commence, voilà, la bénédiction pour nous. Donc, nous voulons comprendre que cette affaire-là, le jour du serviteur, où il s'en va, est une affaire sur lequel est suspendu tout le salut de tous les âges. Parce que si Isaac, et Abraham le sait bien, si Isaac se marie dans une famille idolâtre et se fait détourner son cœur, le plan de Dieu est arrêté. Mais bien sûr, Dieu est souverain, ça ne va pas s'arrêter. Mais Abraham sait qu'il y a aussi une responsabilité humaine dans cette affaire. Et c'est pourquoi il dit, mets ta main sur ma cuisse et tu me jures que tu vas pas aller vers mon ancien peuple idolâtre. Le plan de Dieu pour bénir ne peut s'accomplir que si nous suivons Dieu dans son plan. Et si nous voulons que la bénédiction du salut se répande à Bouc-Bel-Air et autour de nous, nous ferions bien d'être comme Abraham, sérieux au sujet du fait de rester dans son plan pour bénir. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire plein de choses. Des grandes choses pour être fidèle, des petites choses. Ça veut dire que ceux qui sont dans cette église vont devoir se renoncer à soi et ne pas faire des choses qu'ils veulent faire. Regardez la famille de Laban. Veulent-ils lâcher leur fille d'un coup? Le matin, après avoir entendu la nouvelle, tu dois dire au revoir pour toujours? Ok. On est amené, et c'est pourquoi le serviteur, est-ce que vous allez démontrer la bienveillance, vous là? Dieu bénit, il nous met sur sa bienveillance. Mais si nous allons accomplir son plan, nous aussi, nous devons montrer de la bienveillance tenace. Et ça veut dire que parfois nous disons non à travers nos larmes. Je ne veux pas faire cela. C'est la chose à faire. Voilà. Bien, nous comprenons le sérieux de la situation et nous comprenons pourquoi dans le passage la famille de Laban dit « Ouh, l'Éternel est dans cette affaire, nous ne pouvons pas dire oui ou non. » Je suis en train de vous dire que cette histoire, ce n'est pas un truc de mariage arrangé. Le ciel est dans cette affaire. Parce que Dieu est en train de poursuivre un plan éternel pour sauver et nous ramener dans son amour. Troisième point. Et c'est la mission du serviteur et comment il l'accomplit. Et là, je tire vers la leçon principale et on va s'arrêter. Est-ce que je suis au bon endroit? Oui. Le serviteur accomplit sa mission principalement par la prière. Il va au bon endroit, il obéit. Et quand il arrive, il ne fait rien avant de prier. Et c'est assez étonnant, les amis, je trouve, n'est-ce pas, de voir à quel point le serviteur d'Abraham ne peut accomplir cette sorte de mission dont les enjeux sont tellement grands sans que le ciel intervienne, sans que Dieu lui-même intervienne. Regardez, donc ça commence avec Abraham lui-même. Donc au verset 11 et 12, pardon, je vais avancer vers le serviteur. Donc il se leva et se rendit en Mésopotamie et à la ville de Nahor. Il fit agenouiller les chameaux, etc. Verset 12. Puis il prit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui. Parfois, il faut des prières spécifiques, n'est-ce pas? Il ose. Ce que je cherche est agir avec bienveillance envers mon Seigneur Abraham. Me voici et demande exactement ce que vous avez su. Verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler, de prier, que sortit sa couche sur son épaule, Rebecca. Et l'auteur, enfin Moïse qui écrit ce passage, il prend le soin de nous dire qu'il n'avait pas fini de prier. C'est vraiment fort, n'est-ce pas? Je crois qu'il veut nous marquer de cette fidélité à Dieu qui entend et on n'a même pas finir la prière. Et bon, Rebecca est là. Et c'est elle que Dieu avait destinée. C'est elle. Au bon moment. Et puis le verset 26, regardez. Alors, et maintenant, donc, il a rencontré, il a réalisé que c'est Rebecca. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, qui n'a cessé d'exercer sa bienveillance envers mon Seigneur. » Et puis dans le verset 42, il raconte encore, « Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir mon voyage, ainsi de suite. » Et nous continuons le verset 46 encore. « Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel et j'ai béni l'Éternel. » Et enfin le verset 52, « Lorsque le serviteur d'Abraham entendu leurs paroles, que la famille est d'accord pour laisser partir la fille, il se prosterna en terre devant l'Éternel. » Alors si nous avions le DVD de ça, qui n'est pas encore sorti, cet événement, on aurait remarqué qu'un peu partout, c'est un peu comme ce que le papa de ma femme a dit lors de la répétition pour notre mariage. Le soir avant, on a répété la cérémonie. Et mon beau-père, qui est athée, vraiment très athée, on est rentré à la maison, il a dit, « Dis donc, ce pasteur, donc le pasteur qui a fait la cérémonie, il prie chaque fois qu'il... » En anglais, il prie chaque fois qu'il y a un chapeau qui tombe. Donc, un peu partout, toujours en train de prier. Et c'est ça la scène qu'on a dans le DVD, que ce serviteur, il est en train de prier au puits, il est en train de se mettre à genoux devant Rebecca, il est en train de se mettre à genoux devant Laban et la famille. Partout, il est en train de prier. Et c'est comme ça que la bénédiction de Dieu se répand et se propage. Mais quelle est sa conception de la prière? Et c'est le point central que je voulais vous montrer aujourd'hui et que nous avons dans ce verset 12. Donc, relisons une fois de plus. Puis il dit, Éternel Dieu, mon Seigneur, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je recherche et agis avec bienveillance, avec amour bienveillant et fidèle et tenace envers mon Seigneur Abraham. Pour le serviteur, la prière n'est pas, comme pour nous parfois, un moyen d'essayer de convaincre Dieu de nous bénir, n'est-ce pas? La prière fait partie de cette réalité que nous sommes sous la bénédiction de Dieu. Le serviteur est en train de dire en quelque sorte, « Ô Dieu du ciel, toi tu as mis Abraham sous une parapluie de bénédiction, enfin, sur une bénédiction constante. Partout où il va, dans tout ce qu'il fait, ses chants, ses offres, c'est ton amour fidèle et tenace et bienveillant qui l'accompagne. Alors, puisqu'il en est ainsi, montre un peu de ça en ce moment. Manifeste la réalité de là où tu nous as placés sous ton amour fidèle comme une réalité concrète de notre existence. Et notre confiance dans la prière, et vous voyez que parfois, quand nous prions, nous nous arrêtons à la première partie de la prière. Nous disons, fais réussir mon voyage. Ou donne-moi la fille. On fixe notre attention sur la chose, n'est-ce pas? Sur l'événement que nous voulons voir se passer. Or, en principe, la prière n'est jamais la recherche d'une chose. C'est la recherche d'une révélation. C'est-à-dire, quand je demande quelque chose, ce que je veux vraiment plus que la chose, c'est que par cette chose, Dieu révèle à moi un peu plus l'immensité de sa grâce et de son amour. N'est-ce pas? Et ça, nous oublions. dans notre moralisme et notre légalisme, nous nous fixons sur un truc, une chose, une délivrance, un bien que nous voulons. Et Dieu veut nous instruire et nous dire, non, les choses, c'est... Quand une fille reçoit des fleurs, vous pensez que c'est vraiment les fleurs qui l'intéressent? Peut-être elle n'aime pas cette sorte de fleurs, mais ça n'a aucune importance, parce que ce qu'elle veut, c'est la manifestation de l'affection de l'homme qui continue dans le don des fleurs. C'est ça? Et quand nous prions, nous devons avoir cette attitude. Seigneur, nous voulons trouver la fille. Mais vraiment, la raison pour laquelle on veut trouver cette fille, c'est que c'est encore une manifestation de cette grâce et cet amour bienveillant et fidèle qui est le joyau de notre vie, qui est le commencement et la fin pour nous. Et c'est une manière de prier qui glorifie Dieu, parce que cette prière ne cherche pas des trucs de Dieu, comme si Dieu était le moyen pour arriver à autre chose, n'est-ce pas? Mais cette sorte de prière cherche Dieu à travers une chose, n'est-ce pas? Et cela change la prière complètement. Ce que nous voulons vraiment, au début de cette implantation, je dis au début parce que dans un sens, on est en train de commencer pour de bon maintenant. Ce que nous voulons vraiment, nous voulons voir les gens se convertir à Jésus-Christ et trouver Christ et toute son glorieux amour. Nous voulons les voir sauvés. Mais ce n'est pas des conversions que nous voulons surtout. Nous voulons une manifestation où Jésus va venir montrer qu'il est pour les gens et pour nous, n'est-ce pas? Ô Seigneur, montre-nous toi-même dans cette implantation. Nous partons comme le serviteur d'Abraham. Et ce que nous disons, c'est montre ton amour qui ne cesse jamais. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai parlé plus longtemps que je ne voulais. Ça montre tout simplement que notre mission, comme celle du serviteur, est une mission d'amour fidèle et bienveillant. C'est venu de là, et ça exprime de notre part la même chose, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas montrer, toi, l'amour bienveillant et fidèle? Et lorsqu'au cours de cette implantation, vous avez envie de ne pas faire un truc, ne pensez pas au truc. Dites-vous, ah, j'ai une occasion de montrer l'amour bienveillant et tenace en faisant cela. N'est-ce pas? Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une manière de transformer nos devoirs en une mission d'amour. Que Dieu nous bénisse, vraiment qu'il nous bénisse, que par son esprit, il nous guide les pas dans cette réalité de son amour bienveillant et fidèle. Que ce soit notre joie, et que ce soit aussi notre moteur d'action. Nous allons chanter ensemble. Donc, Nikki, si tu peux chercher Caroline pour le dernier chant, ce sera dans le recueil, le numéro 247.